Les Nuits de France Culture. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Hassan M. Béchour. Nous sommes ensemble jusqu'à 4h du matin.
Bonsoir. Au sommaire cette nuit sur France Culture, dans un instant, seconde partie de « Histoire d'un camp Viet Minh » par Patrice Gélinet dans « L'Histoire en direct ». Un débat réunissant historiens et anciens combattants en juin 1991. Une heure, collaboration cinématographique franco-belge de créateurs de type Stanislas André Stiman et Georges Simenon, une causerie de René Jeanne dans « Heure de culture française » le 13 juin 1958 sur France 3 Nationale. À 1h15, « Taxi, s'il vous plaît, une nuit magnétique » proposée par Mathieu Bénézet en 1979 avec des auditeurs et des chauffeurs de taxi. 2h40, « Poésie ininterrompue » avec Jacques Dupin, une émission de Claude Royer-Journoux diffusée la première fois en mai 1975. Et enfin, vers 3h20, « Nuit dans les savanes du Tchad », un reportage de Pierre Ichac, diffusé le 13 juin 1959 sur Paris Inter, réalisation Pierre Billard. Vous pouvez télécharger et réécouter ces émissions à la page des nuits sur le site et l'application Radio France. Une très bonne nuit à tous, à l'écoute de France Culture.
Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est en février 1991, au cours d'un colloque, qu'éclate l'affaire Boudarel, du nom de ce Français qui, quatre décennies plus tôt, pendant la guerre d'Indochine, avait prêté allégeance au Viet Minh. Comme lui, plusieurs milliers de Français, baptisés « soldats blancs d'Ho Chi Minh » ou simplement « ralliés », avaient pris fait et cause pour la décolonisation et l'émancipation de l'Indochine française. Mais tous n'avaient pas fait le choix, comme lui, de devenir commissaire politique en exerçant des responsabilités dans des camps de détention et de rééducation. C'est cet engagement jusqu'au boutiste qui fit la singularité de l'affaire Boudarel. Affaire qui choqua et cliva dans l'opinion publique, les milieux universitaires et, naturellement, parmi les anciens combattants. Boudarel était-il un renégat ou un militant égaré dans le contexte des guerres coloniales? Les horreurs du système colonial peuvent-elles expliquer, en partie, le parcours et les engagements des ralliés à la cause du Viet Minh? Voici quelques-unes des questions abordées dans cette émission, la deuxième partie d'un programme de l'Histoire en direct par Patrice Gélinet et Christine Bernard-Sugy sur l'histoire d'un camp Viet Minh. Comme de coutume dans cette émission, le débat suit le documentaire. Et vous l'entendrez, le débat ce jour-là eut lieu également dans le public, venu assister aux échanges entre Pierre Vidal-Naquet, Alain Ruscio, Jacques-René Doyon, Robert Bonafous et Éric Weinberger. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 juin 1991.
Histoire en direct.
C'est l'impression première que j'ai eue en arrivant. Dès que j'ai monté cet escalier, où il y avait des gars à toutes les marches qui étaient assis, qui se demandaient comment ils allaient monter l'autre marche, qui restaient là des demi-journées, complètement à gare, en haillon, ça m'a frappé. D'un seul coup, je revoyais la déportation. Et arrivé au camp, nous avons fait connaissance avec le chef de camp qui s'appelait Bin, et derrière ce chef de camp, il y avait donc en retrait Boudarel.
Ça a dû vous surprendre quand même de voir un Français là.
Oui, ça nous a surpris. Nous avions déjà rencontré des ralliés mais les ralliés qui étaient vraiment insignifiants. Ils suivaient la masse des Viettes, mais ils n'avaient aucune fonction vraiment définie et comparable à Boudarel. Boudarel, c'est autre chose. Boudarel, lui, c'était un autre monsieur, c'est pas pareil.
Bonsoir. Dans cet extrait de l'émission documentaire de lundi dernier, Claude Bailey racontait comment, le 16 avril 1953, il avait découvert le camp 113, camp de prisonniers où il avait vécu et même survécu pendant 7 mois entre les mains du Viet Minh. Comment il avait découvert aussi le commissaire politique de ce camp, un Français, Georges Boudarel. Il y a 6 mois, personne en France n'avait jamais entendu parler du camp 113, ou presque, ni de Georges Boudarel, jusqu'à ce qu'à l'occasion d'un colloque sur l'Indochine organisé au Sénat en février dernier, Jean-Jacques Beuclair, ancien officier français, prisonnier en Indochine et ancien secrétaire d'État aux anciens combattants, accuse en plein colloque un des intervenants, c'était Georges Boudarel, d'avoir trahi son pays en se mettant au service du Viet Minh et d'avoir été un auxiliaire, donc même un criminel de guerre, en ayant accepté la responsabilité dans ce camp 113 où sont morts beaucoup de prisonniers français. C'était le début de l'affaire Boudarel, une affaire dont le déclenchement aurait pu être salutaire si il avait permis de lever le voile sur un certain nombre d'épisodes peu connus de l'histoire de la guerre Indochine. Seulement, voilà, comme c'est souvent l'habitude dans notre pays, on est passé sans transition de l'oubli à une polémique d'une telle violence que bien souvent elle a occulté et même déformé les événements historiques qui en sont à l'origine. Et c'est pourquoi l'Histoire en direct a décidé de consacrer ses émissions de juin aux prisonniers français en Indochine, à ces camps Viet Minh, où les pertes ont été considérables. Et l'émission documentaire de lundi dernier a rappeler l'histoire d'un de ces camps, donc le camp 113, celui où Georges Boudarel était commissaire politique. Et cette émission est suivie, comme d'habitude, d'un débat en public et en direct du studio 105 où nous nous trouvons, et débat auquel participe ce soir le colonel Bonafous, président d'honneur, fondateur de l'ANAPI, l'Association nationale des anciens prisonniers internés d'Indochine, qui, je crois d'ailleurs, ne s'est pratiquement encore jamais exprimé sur cette question et qui est à la fois un témoin et un historien des événements dont nous allons parler, puisqu'il fut prisonnier du Viet Minh pendant 8 mois en 54 et qu'il est l'auteur d'une thèse de l'Université de Montpellier qui est, à ma connaissance, le seul document d'ensemble sur les prisonniers de guerre français dans les camps Viet Minh. Jacques-René Doyon, qui a écrit il y a déjà 20 ans un livre remarquable et tout à fait étonnant, Les soldats blancs de Ho Chi Minh, chez Fayard, un livre, je crois, difficile à retrouver, qui a été réédité chez Marabout et qui retraçait l'itinéraire de quelques dizaines de Français qui ont choisi, comme Georges Boudarel, de rallier le Viet Minh pendant la guerre d'Indochine. Également présent, Alain Ruscio, historien, lui aussi spécialiste de l'Indochine, et puis deux hommes qui ont un point de vue diamétralement opposé, je le crois, sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire Boudarel. L'historien Pierre Vidal-Naquet, qui est un des principaux animateurs du comité de soutien de Georges Boudarel, et puis le vice-président de l'ANAPI, le colonel Éric Weinberger, qui a été fait prisonnier à Dien Bien Phu et libéré le 2 septembre 54, après les accords de Genève qui ont mis un terme à la guerre d'Indochine. Mais avant que nous abordions, bien entendu, il n'est pas question de l'occulter, l'affaire Boudarel, je voudrais tout de suite poser une question à Jacques-René Doyon, car votre livre, écrit, je le rappelle, il y a 20 ans, Jacques-René Doyon, nous a révélé non seulement les camps, d'ailleurs vous ne parlez pas tellement des camps, mais dans cette affaire Boudarel, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait aussi finalement, et ça vous l'aviez écrit il y a 20 ans, beaucoup de Français qui ont choisi, qui ont une histoire peu commune et qui ont choisi le Viet Minh, le camp Viet Minh pendant la guerre. Vous citez même le récit incroyable d'un officier qui, ayant rallié le Viet Minh, un officier français, s'est battu à Dien Bien Phu, mais du côté du général Giap. Alors le cas donc de Georges Boudarel est loin d'être le seul cas de ralliés. Combien peut-on estimer il y avait de ralliés du côté Viet Minh et pourquoi sont-ils passés de l'autre côté, Jacques-René Doyon?
Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire tout d'abord que ce livre, en effet, date d'il y a 20 ans. Et j'ai envie de dire, comme Céline, quand il voyait une réédition du voyage, tiens, on ressort le voyage, tiens, on ressort les soldats blancs de Ho Chi Minh. Et c'est un processus presque de ce qu'on appelle en psychologie une anamnèse, c'est-à-dire une sorte de retour aux sources. C'est un travail très ancien et je n'ai plus écrit sur le Vietnam depuis la fin de ce livre, car l'Indochine a fermé ses frontières. Et lorsque on veut écrire sur
Elle ne les a pas fermées. Nous venons de faire sur France Culture 7 heures d'émission sur la guerre d'Indochine.
Oui, elle les rouvre en ce moment. Oui. Mais il y a 20 ans, elle les a fermées après la guerre. Mmh. Donc, écrire sur l'Indochine, ce n'est pas seulement avoir des fiches entre les doigts et aller dans les bibliothèques. C'est surtout être dans un climat avec des hommes voir des paysans qui plantent le riz et des gens qui sont là et qui vivent. C'est vraiment quelque chose qui est à sentir, c'est une sensualité. Donc je reviens à cette question-là. Je vais d'abord vous décevoir parce que je suis très heureux d'être là ce soir, mais je ne peux pas parler des camps dans la mesure où ce livre n'est pas sur les camps.
Vous en aviez un peu parlé parce que Boudarel figure dans votre livre.
Je vous arrête tout de suite. C'est le deuxième aspect de la chose, c'est que je ne peux pas donner non plus de nom. C'est-à-dire, je ne peux pas parler. C'est pour les questions éventuelles qui viendront après. Je ne peux pas parler de manière nominale puisque le principe de ce livre, c'est la seule manière selon laquelle j'ai pu l'écrire, c'est qu'il y avait des pseudonymes. Et j'ai pris des engagements 20 ans après, même si je n'écris plus sur le Vietnam depuis 20 ans. Que je suis retourné au roman, eh bien, cet engagement reste valable. Donc ça, c'est un principe de base que je tenais à définir. Alors, pour reprendre la question, si vous voulez, des déserteurs, ou plutôt des transfuges, là, je crois qu'il faut vraiment complètement élever le débat, c'est-à-dire arriver à la grande question indochinoise dans la stratégie de la guerre froide.
Voilà, oui.
Alors ça, c'est vraiment... Personnellement, je voulais
rappeler le contexte,
également,
parce que c'est
je voulais dire
oublie,
également, oui. Je ne suis pas de la génération de la guerre d'Indochine. Je suis la génération des gens qui avaient 30 ans dans la guerre du Vietnam. Je suis allé au Vietnam comme journaliste,
oui.
Et j'ai ramené deux livres de là-bas comme journaliste et comme écrivain. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de territoire imaginaire à défendre, et je n'ai pas de nostalgie, je n'ai pas de mélancolie vis-à-vis de ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis arrivé donc à cette question-là par l'Amérique. Ayant été comme journaliste aux États-Unis.
Mais combien y avait-il ? Moi, c'est la question que je posais
pour
la France,
très vite, parce que c'est important de situer le
parce
débat.
On a beaucoup de choses à aborder.
Oui, je voudrais quand même situer très très vite, si vous voulez, le débat, pour qu'on ne s'enlise pas soit dans la polémique inutile. Et c'était mon appréhension en venant ici. Donc,
c'est pas l'objectif de l'émission du tout.
À propos de ce qu'on appelle une affaire. Également, d'autre part, éviter, si vous voulez, toute problématique inutile à ce sujet. Alors, il faut resituer cette question des déserteurs. Il y a eu, dans la guerre froide, alors il y a eu quoi ? Il y a eu trois générations, en gros, si vous voulez. Il y a eu d'abord, et ça c'est très important, des Allemands, des Autrichiens, des étrangers qui, pour éviter la Gestapo, se sont engagés dans la Légion étrangère. C'était des socialistes, des communistes, des gens de gauche. Ils se sont retrouvés au Tonkin, en 1945, là, lorsqu'il y a eu le coup de force japonais, ils ont rallié le Viet Minh. Solidarité politique. Il y en a eu beaucoup. Je veux dire, de désertion politique, c'est celle qui m'intéresse. Il y en a eu, à l'époque, beaucoup. Ces gens-là sont devenus colonels, sont devenus commissaires politiques très élevés. Ils ont eu un rôle important au début de la guerre de Chine. En deuxième génération, si vous voulez, les FTP, soldats, officiers, sous-officiers, qui partent avec la division Leclerc. Des FTP, de formation communiste, dont certains cotisent au parti. Donc, formation communiste, l'esprit de la résistance et des brigades internationales. Ils arrivent en Indochine, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont pris, cas de conscience, qu'est-ce que je fais ? Je suis français, je reste avec les officiers français, il y a le Viet Minh qui est en face. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Certains passeront. Bon. Et troisième génération, ça c'est 47, hein, 45-47. Troisième génération, après 1950, c'est très dur, c'est la guerre froide. Bon. Il ne reste plus que une dizaine d'officiers FTP qui cotisent au parti à peu près dans le corps expéditionnaire. Ils sont partout au Laos, au Tonkin, au centre Annam, au sud. Qu'ils font ? Eh bien, ils essaient, ils sont là, ils sont coincés, ils ont un problème moral terrible à la corneille, si vous voulez. Ils sont un peu comme des héros de Sophocle. Qu'est-ce qu'ils font ? Et à ce moment-là, ils choisissent plutôt que de déserter, ce qui était mal vu par le PCF, on ne déserte pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent pour le Viet Minh. Et quand ils sont découverts, ils passent du côté Viet Minh. Alors, le cas exceptionnel, c'est un capitaine, dont je ne veux pas révéler le nom, qui est passé avec sa compagnie en 1952, et de tout c'est un peu l'équivalent de l'affaire Maillot, si vous voulez, en Algérie. Et donc, tout le collège expéditionnaire connaissait le nom de ce capitaine. Voilà, en gros, c'est ça.
C'est celui qui s'appelait... c'est pas Ribera dans votre...
Dans le livre, c'est ça.
Dans le livre, c'est Ribera,
bon,
oui.
Voilà, si vous voulez, en gros, en trois minutes, l'histoire de...
De ces ralliés qui est très peu connu, on en a fort peu parlé. Je rappelle que Boudarel était un peu entre les deux cas de figure. Il a rallié, donc, en 1950.
Non, mais alors là, le problème des civils, c'est différent.
Alors, Russio, il va intervenir. La Russio.
Oui, moi je voudrais dire que bon, les scrupules de M. Doyon l'honorent, mais lorsque son livre est paru en 1972, nous étions un certain nombre, nous étions quand même très nombreux, disons, dans les milieux des vietnamologues, à avoir immédiatement identifié donc Boris, et moi je peux le dire, puisque moi je n'ai pas engagé ma parole, Boris Aboudarel. C'est l'une des raisons, et je voudrais surtout pas ce soir que le débat soit axé seulement sur l'affaire Boudarel, mais c'est l'une des raisons, et je reviendrai tout à l'heure si vous le voulez bien, une des raisons pour lesquelles j'étais très étonné de constater que donc 19 ans plus tard, en 1991, éclate cette énorme affaire, alors que tout le monde savait qu'un Français professeur de philosophie à Saïgon était passé au Viet Minh.
Mais alors Pierre Vidal-Naquet, vous le connaissiez depuis 20 ans, Georges Boudarel, vous avez dit que vous saviez qu'il était effectivement passé au Viet Minh, et que vous ignoriez, vous en revanche, son rôle dans un camp.
Je n'ai su son rôle dans le camp que très tard, environ un an avant que n'éclate l'affaire, lorsqu'il a commencé à recevoir des lettres anonymes. Mais je voudrais revenir sur le point de départ du débat, en disant d'abord qu'il serait triste que ce débat soit purement idéologique. On a évoqué ici deux positions diamétralement opposées. J'espère que les uns et les autres, nous allons essayer de nous approcher
de la
vérité.
Oui, façon dont vous...
Oui. Je voudrais qu'on essaye de comprendre, les uns comme les autres. Bon, deuxième remarque, l'histoire ne se fait jamais en direct. C'est un beau titre d'émission, mais tout le monde sait que l'histoire, ça se fait en différé, par définition même, puisque les faits dont nous parlons...
Le débat est en direct, et le documentaire est traité comme si les événements étaient racontés au présent, avec des archives d'époque,
Nous sommes bien d'accord, le débat est en direct, mais fort heureusement, il s'agit de faits extrêmement anciens. Troisième remarque, ce qui caractérisait le monde et la France dans cette époque de la fin des années 40 et du début des années 50, où se situe notre affaire, c'est une coupure idéologique profonde, radicale. Nous sommes à l'époque où un Français sur quatre vote communiste et où le nombre des membres du parti n'est pas réduit à ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait environ 5, 6, 700 000 communistes à l'époque. Et un Français sur quatre considère donc comme normal que Staline soit le cerveau vivant du prolétariat. Bon, quand on pense cela et que l'on veut conformer son action à ce qu'on pense, cela peut entraîner un certain nombre de conséquences. Le deuxième fait qu'il faut rappeler, c'est que la guerre du Vietnam, la guerre française du Vietnam, qui commence en novembre, décembre 1946, les uns diront elle commence avec le bombardement de Haïphong, les autres diront elle commence avec le coup d'Hanoï le 19 décembre, peu importe. Cette guerre du Vietnam, elle est indissolublement une guerre coloniale, de façon traditionnelle, répétant des guerres coloniales déjà antérieures, par exemple en 1931, et une guerre insérée dans le cadre général du conflit entre Est et Ouest. On peut dire, si vous voulez, qu'en gros, à partir de 1950, l'intervention chinoise, la défaite de la route coloniale numéro 4, c'est le second aspect qui l'emporte, mais elle est les deux. Et si on ne voit pas cet aspect, on se condamne à n'y rien comprendre.
Robert Bonafous va intervenir, oui.
Bien, je voudrais d'abord me positionner dans ce débat. Je ne suis pas venu ici en tant que shérif ou justicier ou juge pour cibler M. Boudarel. Je vous ferai remarquer.
C'est pas non plus
le
sujet du débat. J'ai intitulé la précédente émission Histoire d'un camp Viet Minh. Il s'agissait de montrer.
On s'éloigne du sujet en parlant de guerre coloniale. Je voudrais rappeler aux historiens qui sont autour de moi que je suis de tous le plus à l'aise pour parler de ce problème puisque je suis le seul d'entre nous à avoir été en Indochine pendant 3 ans, avoir été prisonnier, non pas dans un camp normal, mais dans un camp de rééducation avec des chaînes aux pieds, et qu'on a eu tort de focaliser tout ce débat depuis le début sur un homme, Boudarel. Boudarel cache la forêt. Moi, j'ai d'autres noms. Il n'était pas seul à faire ce travail. Et on a ciblé le camp 113. Or, à la fin de la guerre, il y avait 106 camps. Et il y en avait des plus mauvais que le camp central. Je regrette, et notamment le mien, où j'étais, où j'ai pu faire la comparaison, puisque j'étais avant dans d'autres camps militaires. Alors, je crois que, d'abord, il faut raconter ce qu'étaient les camps, comment on vivait dans ces camps, et après on comprendra pourquoi, peut-être, il y avait des gens comme Boudarel qui peuvent justifier leur action eux-mêmes, parce qu'ils avaient une idéologie, mais qui serait difficile à comprendre s'ils avaient choisi un autre uniforme. On peut imaginer que s'ils l'avaient choisi en 39, cet uniforme, il n'aurait pas été le même, mais la suite qu'il aurait eue n'aurait pas été la même non plus.
Jacques-René Doyon.
Oui, je voulais faire une... Enfin, ce n'est pas une réponse à votre intervention, mais c'est plutôt une suite et fin un peu de celle que je voulais faire. Et en dehors de ces officiers, parce que vous me demandez des chiffres, et vous parliez de chiffres, justement. Enfin, je suis arrivé avec des estimations très complexes, parce que je dois dire, j'ai travaillé pendant deux ans et demi avec une très longue enquête de pratiquement deux ans.
Donc sur les ralliés, oui.
Sur cette question des transfuges politiques de la guerre d'Indochine, d'ailleurs avec la collaboration de la dédicataire de ce livre. Et je suis arrivé à la conclusion, parce qu'encore une fois, les archives n'étaient pas ouvertes. Monsieur Bonafou a eu la chance d'avoir l'ouverture des archives en 80. Je n'avais pas d'archives. Donc, ce n'est pas un travail d'historien, la limite, c'est un travail, bien que le livre fasse 520 pages avec tout l'appareil critique, c'est un travail de journaliste d'investigation. Alors, les estimations seraient d'une dizaine d'officiers. C'est-à-dire, ça commence, si vous voulez, avec des officiers gaullistes qui étaient basés, des officiers de renseignement. Dès les années 40, à Kunming, en Chine, n'est-ce pas, capitale du Yunnan, il y avait Mission 5, qui était une mission de renseignement.
Non, sur l'ensemble de la guerre.
Bon, alors je passe, mais ça, c'est intéressant, oui, parce que oui, c'est des gaullistes. Et il y en avait, et alors, il y a un capitaine qui a rallié le Viet Minh. Il y en a un autre qui a été parachuté à partir de Calcutta, les services d'intervention, qui était parachuté avec le Viet Minh et qui est probablement une sorte de Lawrence d'Arabie, si vous voulez. Il a été pris. Et ça, il y a un auteur...
Oui, mais à l'époque, rallié, ça n'a pas la même signification.
Le
général
et
futur maréchal Leclerc a reconnu Ho Chi Minh. Il n'a pas pour autant rallié le Viet Minh.
Attention, il est resté dans les maquis Viet Minh. Oui, il a eu un rôle dans l'armée Viet Minh. Vous voyez, alors,
et puis au total, à peu près,
au total,
ce que je vous demandais.
Je dirais une dizaine d'officiers. Et alors, pour ce qui est des déserteurs politiques, officiers, sous-officiers, etc., je dirais une vingtaine, à peu près. Si on compte qu'il y avait, en 1950, il restait 40 officiers FTP très proches du parti, et peut-être même une dizaine seulement qui étaient considérés vraiment comme étant du parti. Par exemple, à la caserne de Versailles, on avait regroupé tous ce qu'on appelait les officiers républicains, ils étaient 50. Donc ils étaient quelques dizaines
dont
de gens.
Tanguy, etc.
Ce qu'il faut voir, ce qui est très important, c'est que les dégagements de cadres à la Libération, il y avait sur 30 000 officiers en 1949, sur 30 000 officiers de l'armée de terre, il y en avait seulement 2 000 qui étaient dits de gauche. Et sur les 2000, il y avait 300 FTP communistes, ou proches du Parti communiste, vous voyez. Alors, ça, c'est d'autre part, deux petites choses, et après, je crois que je me tais, parce que je prends sur le temps de parole des intervenants. Je voudrais signaler que dans ce monde d'hommes masculins, de la guerre, bon, il y a eu des femmes, il y a eu trois femmes, et ça, j'avoue, je suis assez heureux de le dire ce soir, qui ont, non pas déserté, mais qui ont été prises comme otages par le Viet Minh, à Haiphong, n'est-ce pas, et qui sont restés dans le Viet Bac, et l'une d'elles...
Le Viet Bac, c'était la région, donc effectivement,
dans la haute région,
qui était le sanctuaire
dans la,
du Viet Minh.
Dans la haute région, et l'une d'elles, que l'on a surnommée la fille du Vietnam Viet Nhu, est restée, a épousé un Vietnamien, et ensuite est devenue une chanteuse très célèbre à Hanoï. Donc il y avait des femmes, ça je tenais à le dire.
Éric Van Berger, vous, je rappelle donc que vous avez été effectivement fait prisonnier à Dien Bien Phu, que vous avez donc connu le camp numéro 1, puisque vous étiez officier.
Oui, non seulement le camp numéro 1, j'ai connu d'abord un camp
d'autres
de représailles.
Mais on en reparlera parce qu'effectivement...
On en parlera après, et si vous voulez, j'ai un autre triste privilège, c'est que j'ai été auparavant également déporté. Donc je connais les deux. Bon, ceci dit, je voulais d'abord très rapidement intervenir sur deux point qu'avait soulevé M. Vidal-Naquet. La première, en disant que l'histoire ne s'écrit pas en direct. Si, elle s'écrit en direct aussi. Hein. Et plus exactement, les résultats, on les vit en direct. Et aujourd'hui, on vit les résultats de l'histoire qui a été écrite précisément à l'époque que nous évoquons, peut-être qu'en fin d'émission, si nous avons le temps, on pourra parler juste quelques minutes sur les résultats, parce qu'aujourd'hui, ils sont là. La deuxième chose que je voulais dire, et permettez-moi de vous rectifier, contrairement à ce qu'on dit, nous ne faisions pas une guerre coloniale en Indochine à partir de 1945. Nous faisions une guerre pour mettre en place, peut-être mal, mais nous faisions une guerre, surtout à partir de 1950, et Delattre l'a très bien dit quand il est arrivé, une guerre pour mettre en place un Vietnam indépendant autre que le Vietnam communiste. Et pour revenir un petit peu, et puis là je m'arrête, pour revenir un petit peu au résultat, si c'est un autre Vietnam qui s'était mis en place, peut-être corrompu au départ, eh bien aujourd'hui le Vietnam serait le cinquième dragon de l'extrême-orient.
Vous parlez de ce qu'on appelait la solution Bao Dai. Oui, je vois que vous avez des sceptiques à côté de vous, notamment Alain Russio.
Oui, moi je crois que...
Brièvement, parce que ce n'est pas non plus l'ensemble de la guerre du Vietnam qu'on peut traiter.
Je crois qu'on est quand même au centre de la question. Pourquoi la France était-elle en Indochine? Je ne parle même pas de la conquête qui, en 1945, avait déjà 75 ans d'existence, enfin de la présence française en Indochine. Pourquoi avons-nous voulu rester en Indochine en 1945? Je crois qu'on ne peut pas contourner la vérité. Il y a eu volonté, ça... Personne qui a regardé les archives, qui a lu les témoignages de gens qui sont allés là-bas, ne peut le nier. Nous avons voulu, la France officielle du début de la 4e République a voulu reconquérir militairement l'Indochine. Certains officiers, et je les salue ici parce qu'ils ont été clairvoyants, pas parce qu'ils étaient particulièrement démocrates, mais parce qu'ils étaient réalistes, certains officiers ont refusé cette logique. Je pense au général Leclerc. Mais force est de constater que la majorité des hommes politiques français et de l'état-major français a souhaité une reconquête coloniale. Et que lorsqu'on me parle aujourd'hui, je vous prie de m'excuser, mon colonel, mais je suis absolument pas convaincu, lorsque vous me parlez de mise en place d'un Vietnam libre, il s'agissait d'une création française. L'ensemble des hommes politiques français, lisez le journal de Vincent Auriol, qui reçoit dans son bureau, et qui a eu la bonne idée de tout enregistrer et de tout noter, qui reçoit dans son bureau tous les hommes politiques français, tous disent « Bao Dai, je suis désolé, t'es un fantoche », le terme est pratiquement employé.
Mais Bao Dai le reconnaissait lui-même, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il était considéré comme tel.
Alors, oui. Si vous permettez, moi, une dernière chose. Puisque j'ai parlé de Vincent Auriol, ce sera la seule citation que j'ai emportée, mais je crois qu'elle est intéressante. C'est une conversation entre le général Delattre, commandant en chef du corps expéditionnaire, et Vincent Auriol dans les bureaux de l'Élysée, le 30 juillet 1951, 3 ans avant Dien Bien Phu. Que disent ces deux personnalités les plus officielles, le principal militaire et le principal politique? Delattre. Mais l'Indochine, pour la France, elle est toute perdue. Nous n'avons plus aucun intérêt en Indochine. Les quelques pauvres petits intérêts qui nous restent là-bas n'existent pas à côté du milliard que nous dépensons par jour. Nous sommes là-bas dans le désintéressement à l'état pur. Réponse du président de la République, Vincent Auriol. Je sais cela, et je suis d'accord avec vous. Mais je vous le demande, si vous allez en Amérique, c'était la veille du voyage de Delattre à Washington, de voir exactement ce qu'ils veulent. Moi, je veux bien que nous partions de l'Indochine, mais j'avoue que leur façon de mettre déjà la main sur ce pays, alors que nous ayons des enfants. C'est nous qui sommes en train de faire cuire les marrons. C'est le président de la République française, le président de la 4e
alors,
qui
écoutez,
parle.
Alors écoutez, là, je me permets vraiment tous de vous interrompre, parce que c'est vrai que nous sommes à la fois au cœur du sujet, mais en même temps, on dérape un petit peu. Je voudrais qu'on revienne quand même sur ce qui est très important. Ça a été abordé par tout le monde, c'est-à-dire les camps du Viet Minh.
Il faut quand même revenir au point de départ, c'est que jusqu'à la rupture des ministres communistes en 1947, il y avait un consensus général, parti communiste compris, et c'est le drame justement de tous ces hommes qui sont partis en étant communiste avec le corps expéditionnaire, pour rester là-bas. Et je veux parler des civils aussi, parce que Thorez, les ministres communistes ont voté par solidarité avec Thorez. Ils ont voté les premiers crédits à la guerre d'Indochine. C'est ça le nœud du débat au départ. C'est la question stalinienne et la guerre d'Indochine. C'est là qu'on est au cœur du débat. Et c'est dans cette question-là, il faut voir aussi qu'il y a eu beaucoup de civils. On parle du cas de Boris comme un cas unique en tant que civil. Mais il y a eu, par exemple, à un moment donné, en 1945, c'était presque une mode chez les instituteurs du Tonkin et même du Laos d'aller chez le Viet Minh. Comme un peu en Algérie, les pieds rouges sont allés chez les Algériens.
Alors,
après la guerre d'indépendance, c'est une espèce de, dans l'esprit de la résistance, etc., socialiste, parce que les socialistes étaient très influents en Indochine, dans l'esprit
pas les.
Le groupe de la lutte.
Oui, Saïgon. Alors c'est on allait chez comme ça. C'était une espèce de promenade politique.
Alors, je voudrais qu'on aborde absolument maintenant les camps et un petit peu à partir d'ailleurs de chiffres que vous donnez, Robert Bonafous, dans ce livre, dans cette thèse. J'aimerais bien qu'un jour un éditeur puisse l'éditer parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus complet et tout le monde s'accorde à le dire sur les camps Viet Minh. Donc Georges Boudarel part en 1950 et quelques mois plus tard, il arrive bien plus tard, même fin 52 si mes souvenirs sont bons, au camp 113. Alors le camp 113 n'est qu'un des 106 camps, vous l'avez rappelé, Robert Bonafous, et évidemment l'affaire Boudarel dont on parle aujourd'hui a pris de l'ampleur en raison même des pertes. Sur les chiffres, tout le monde n'est pas d'accord dessus, mais en raison même des pertes qu'il y avait dans ces camps. Alors là, je cite un document de l'ANAPI, on parle, ça c'est des chiffres donnés par le médecin commandant Martin, disparu et présumé prisonnier à la date du 20 octobre 54, je crois que c'est sur l'ensemble de la guerre d'Indochine, 36 979, il faut rappeler que là-dessus, la moitié pratiquement étaient des autochtones, donc des Vietnamiens pro-français, et libérés en 1954, 10 754. C'est-à-dire qu'en fait, d'après ces chiffres, les pertes auraient été considérables, de l'ordre de 80%. Alors, quels chiffres, quels sont... d'abord, je me tourne vers vous, Robert Bonafous. Combien y a-t-il eu de morts dans ces camps?
Alors, il y a eu plusieurs périodes dans les camps. D'abord, il y a eu, au départ, au début de la guerre d'Indochine, quand, en 1946... Le 19 décembre, lorsque le Viet Minh attaque la citadelle et qu'il ne réussit pas,
ce qui
s'aborder et disparaître en petits groupes. Ces petits groupes n'ont pas beaucoup de munitions, n'ont pas grand-chose pour manger, ne peuvent pas garder les prisonniers qu'ils font. Donc ils les tuent, cet ennemi, ils le reconnaissent. Bon. Ensuite, lorsque leur formation commence à s'étoffer, à ce moment-là, quand ils font un prisonnier, ils le laissent dans un village sous la responsabilité d'un camp. Et c'est pas à partir, on peut dire que l'institutionnalisation de l'état de prisonnier se fait après la RC4. C'est là où, d'un seul coup, le Viet Minh réalise qu'il a énormément de prisonniers. Il ne s'attendait pas à en avoir autant, il ne sait pas très bien quoi en faire, il a rien prévu pour ça. Alors il va les balader de droite, de gauche, il y aura des ordres, des contrôles.
L'RC4, je le rappelle, c'est un désastre qui s'est produit en 50, effectivement, entre Cao Bang et Lang Son. Et là, c'est une défaite gigantesque. On a beaucoup moins parlé que de Dien Bien Phu, mais il y a eu 3000 soldats français disparus dans cette évacuation du camp Cao Bang.
3000 blessés prisonniers.
Oui, oui. C'était la première grande victoire du Viet Minh.
Mais le reste va être baladé un petit peu partout. Et là, il va y avoir des décès. Il va y avoir des décès parce qu'il n'y a pas à manger. Le Viet Minh n'a rien prévu. Et alors, il essaie de les envoyer vers les endroits où il y a à manger. Mais quand il arrive, le ravitaillement n'y est plus. Il les renvoie ailleurs. Et là, il va y avoir des morts. Bon. Alors, on va commencer à construire des camps. En fait, un camp, qu'est-ce que c'était? C'était un village. Alors, on les a mis dans des villages avec les habitants. Et ça ne s'est pas très bien passé parce que les habitants, après tout, et surtout les habitants d'autres régions, de la haute région, qui sont des méos ou des tailles ou des taux, qui sont des gens très, très libres, n'ont pas admis, ont mal supporté la présence des prisonniers parmi eux, qui n'avaient rien pour se soigner, qui étaient malades, qui n'avaient rien pour se laver et qui amenaient des épidémies. Alors c'est là où il a fallu construire vraiment des camps, mais ces camps ressemblaient à des villages. Alors, on les
a pertes, colonel Bonafous, parce que c'est quand même... on reviendra peut-être sur les origines de la mortalité qui était très élevée, mais quel chiffre faut-il croire en ce qui concerne les pertes? Parce que ça varie. D'ailleurs, les Vietnamiens eux-mêmes, les responsables de camp, nous en avons interrogé un pour l'émission de lundi dernier. Je crois d'ailleurs que on n'a jamais demandé à un responsable de la rééducation dans les camps de parler. Nous l'avons rencontré au Vietnam il y a déjà un an. C'était avant ce que se déclenche l'affaire Boudarel et son témoignage était donc important. Ils reconnaissent eux-mêmes des pertes énormes. Et tous affirment, comme d'ailleurs beaucoup de prisonniers français eux-mêmes, que ces pertes sont surtout dues aux conditions matérielles épouvantables dans les camps. Mais d'abord, l'état des pertes. Les chiffres varient, les pourcentages entre 50 ou 40 et 75%. Quelle est la réalité?
Alors, voilà, l'état des disparus a pu être, des morts en captivité, a pu être réalisé grâce au médecin commandant Martin, qui a vu tous les prisonniers. Bon, avec une équipe de médecins militaires, il a vu tous les prisonniers et surtout il a réuni les 23 médecins militaires qui avaient été faits prisonniers et il les a interrogés. Bon, alors il a pu cerner la morbidité, c'est-à-dire la maladie dans les camps, et puis il a pu cerner aussi les gens qui étaient morts en captivité. Alors on arrive à ceci, c'est que, par exemple, sur 6449 Français prisonniers, eh bien, on n'en a rendu que 2587, le reste est mort en captivité. C'est indéniable. Les gens, tous les témoignages sont là pour le dire. J'ai réussi à avoir à peu près 3 témoignages pour chaque décès.
Alors, on distingue là-dedans également les légionnaires qui ne sont pas encore
des légionnaires, les nord-africains, ouais. Les africains, etc.
Et le gros des pertes, ce sont les autochtones.
Alors, les autochtones, c'est un cas à part parce que ces gens-là ne décédaient pas comme nous, ils étaient du pays. Bon, si la nourriture était moins importante, ils survivaient. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas été rendus. Pourquoi ? Parce que le Viet Minh a considéré qu'ils faisaient partie de son armée. Et qu'en étant pas, en étant de l'autre côté, c'était des déserteurs, si vous voulez. Alors il les a traités en déserteurs, il les a mis dans des camps, il les a gardés dans des camps, mais ils survivaient. Et on ne peut pas dire que sur les 15 759 autochtones, il y a eu autant de morts.
Colonel Weinberger, là c'est quand même un document que vous m'aviez donné, et vous dites « Oubli, ignorance ou occultation volontaire d'une réalité historique, sur 37 000 prisonniers du Viet Minh, 10 700 seulement ont été libérés à fin des hostilités, mais on donne le sentiment que justement les autochtones sont presque tous morts. »
On n'a pas donné ce sentiment, on a bien dit il y a eu 10 000 libérés.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces autochtones ?
Donc les autres non libérés, vous savez, il y a des autochtones qui sont restés dans des camps pendant 20 ans. C'est pire que mourir.
Les chiffres exacts sont ceux-ci. Il y a eu 59,89% de prisonniers du corps expéditionnaire, je ne dis pas des autochtones, du corps expéditionnaire, qui sont morts dans les camps Viet Minh. C'est-à-dire qu'on dépasse la mortalité des camps de prisonniers français pendant la guerre, c'était où il y a eu 2%, la mortalité des prisonniers russes en Allemagne, la mortalité des prisonniers allemands en Russie, et on arrive, et j'en ai la preuve, qu'on a dépassé cette mortalité dans pas mal de camps de déportation.
Pierre Vidal-Naquet.
Non, je veux simplement dire que je ne conteste pas du tout les chiffres du colonel Bonafous qui ont été établis après une enquête sérieuse. Je veux simplement dire, ce que je conteste, c'est la comparaison. Parce qu'il ne faut pas comparer ces chiffres avec ceux même des camps allemands, encore moins des camps de prisonniers allemands, même en Russie. Il faut les comparer aux pertes de l'expédition française au Tonkin, aux pertes de l'expédition du Ken à Madagascar en 1894, c'est-à-dire dans des conditions climatiques à peu près analogues, et ou encore des pertes dans le bagne de Français de Pulo Condor au sud de l'Indochine. Et là, vous verrez que à cause du paludisme, du beriberi, du scorbut et de toutes ces maladies, vous trouverez des chiffres, hélas, tout à fait comparables. Et par conséquent, la question du climat dans toute cette affaire, la question aussi des possibilités, car vous l'avez très bien dit, mon colonel, le Viet Minh a été tout à fait surpris de cette masse de prisonniers qui lui sont arrivés. Ils n'étaient pas équipés exactement pour. Et nous verrons tout à l'heure si on a fait du côté français les efforts nécessaires pour aider au ravitaillement de ces populations.
Jacques-René Doyon.
Oui, c'est juste un petit élément, mais qui a son poids. C'est que finalement, le Viet Minh a été complètement surpris par ces milliers d'officiers, de soldats et de sous-officiers de désastre de Cao Bang, comme après Dien Bien Phu. Il était complètement débordé
Alors, est-ce qu'on peut dire, parce que si vous voulez, colonel Bonafous, quand vous parlez de comparaison, vous dites qu'il y a eu plus que dans les camps allemands. Tout de suite, il y a un malaise, étant donné que différence. Quelles étaient, au fond, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les raisons, comme vient de le dire Pierre Vidal-Naquet, les raisons de la mortalité sont essentiellement d'ordre purement médical?
Pas tout à fait. Si j'ai fait des comparaisons, c'est parce que quand on fait un travail universitaire, on le fait à fond. Oui. Donc on doit faire des comparaisons avec les autres captivités.
Non, mais un pourcentage, les origines de la mort de ces prisonniers.
Toute proportion gardée, mais il fallait faire ces comparaisons pour bien les situer devant un public. Alors, la mortalité n'a pas été le fait que de maladies. Certes. Elle a été le fait de la malnutrition.
Sans aucun doute.
Elle a été le fait des mauvais traitements. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des tortures. On a bastonné devant moi des prisonniers jusqu'à ce qu'ils tombent par terre sans connaissance. Quand vous mettez quelqu'un au carcan, pendant 3 mois, qu'il y en a un même qui s'est suicidé, un lieutenant, il a réussi à se trancher les veines avec un morceau de verre qui traînait, parce qu'il devenait fou, parce que quand vous avez les pieds attachés en permanence, que vous êtes obligé de faire vos excréments dans la main pour les jeter loin de vous, pour pas mourir dans la pourriture, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on meurt de ça. On meurt de ça, et on meurt pas de maladie, oui, on meurt de mauvais traitements. Je m'excuse, oui, vous aurez la parole après, mais je veux dire ceci. On m'a pendu par les poignets, dans le dos, à un arbre, avec du câble téléphonique. Bon, j'aurais pu en crever. Bon, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a mis des gens dans des cages à buffles, avec des buffles. Ils étaient couverts de bêtes, et ils étaient piqués dans les yeux, dans la bouche, ils ne pouvaient plus respirer. Ça doit compter aussi. Alors, on n'est pas mort que de maladie. Il y a eu de la maladie parce que les gens n'ont pas été soignés, mais ils n'ont pas été nourris et n'ont pas été respectés.
Très, très rapidement,
oui, très vite, Jacques René Doyon. Il y a un élément important, c'est disons l'homme blanc en Asie. Alors, les prisonniers américains en Corée. Bon, il est sûr que les prisonniers. Il y a le système d'immunité de l'homme blanc en Asie s'effondre. Les Américains en Corée sont morts comme des mouches. Ça, c'est dans les camps de captivité. Ça, c'est sûr. On le sait. C'est un élément que je voulais mettre au débat.
Oui, alors justement, quand même, bon, est-ce qu'il y avait intention, Pierre Vidal-Naquet, oui?
Non, mon colonel, je ne conteste pas du tout le fait de la torture dans les camps vietnamiens, mais pas du tout. Je pose simplement une question. La torture, elle se faisait dans un seul camp? Dans votre livre, dans votre thèse que j'ai lue de près, vous dites, à propos des disparitions du côté français, car il y en a eu plusieurs milliers, également, la lettre du général de Beaufort.
Mais nous allons en parler. Est-ce que je peux vous couper? Parce que le mieux, c'est peut-être qu'on l'entende, cette lettre du général de Beaufort. Elle a été dans l'émission de lundi dernier. On va l'écouter tout de suite, si vous voulez, puis je vous donne la parole tout de suite après, Pierre Vidal-Naquet. Donc, c'est la lettre du général de Beaufort, effectivement, qui date de 1955.
Et qui figure dans ma thèse.
Absolument. Hanoï, le 11 mars 1955. Le général de Beaufort, chef de la mission française de liaison auprès de la Commission internationale, à monsieur le général d'armée commandant en chef en Indochine. Les renseignements que je reçois, s'ils venaient à être connus, risqueraient de nous placer dans une situation désagréable, sinon difficile, puisqu'ils comportent une liste de plus de 4500 détenus morts en captivité. Des renseignements officieux donné par l'officier de la commission mixte centrale chargée de ce problème, me permettent de penser que le nombre de prisonniers de guerre indochinois décédés ou exécutés dépasse au total 9000.
Bien, donc les pertes, effectivement, étaient également très élevées dans les camps français. Robert Benafous,
oui,
et puis Alain Rousseau.
Oui, c'est un texte. Puisque c'est moi qui ai déterré, qui ai trouvé cette lettre, et j'ai fait une thèse sans complaisance. Et c'est normal.
Non, mais on l'a salué tous ici.
Je dois expliquer pourquoi cette lettre. Le général de Beaufort faisait partie, était chef de la mission française à Trungja, c'est-à-dire qu'il avait en face de lui des généraux Viet Minh. Quand le Viet Minh a vu qu'il ne pouvait trouver, il lui manquait une dizaine de milliers de prisonniers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué en disant, mais nous aussi, il nous en manque 9000. Je peux dire que 9000, c'est fou. Bon. Alors, le général de Beaufort, affolé, a écrit cette lettre en disant « Attention, il nous en manque à nous aussi, donc on ne peut pas réclamer les nôtres, etc. » Or, je ne défends pas le système. Je suis historien et je parle en tant qu'historien avec des faits et des preuves. Il faut dire ceci, c'est que les camps concernés avaient été passés en compte à la jeune armée vietnamienne en 1953. Qu'il y ait eu entre les Vietnamiens eux-mêmes des règlements de compte, je ne peux pas le prouver, mais je ne peux pas dire non non plus. Cependant, la Croix-Rouge internationale surveillait les camps de prisonniers où nous tenions des Viet Minh d'une manière extraordinairement sévère. Et Dieu sait si les médecins militaires français qui étaient attachés à ces camps s'en sont plaints. Bon. Donc, s'il y avait eu des exécutions dans les camps, ça aurait été su. La deuxième chose, c'est que ces camps abritaient entre 3500 et plus de 5000 prisonniers. Ils étaient gardés, des fois, par 5 ou 6 hommes de chez nous. C'est-à-dire que c'était les Vietnamiens qui dirigeaient le camp eux-mêmes et qui faisaient eux-mêmes la police. Et s'ils avaient voulu s'évader, ils se seraient évadés. Et ils ne partaient pas. Et ils ne partaient pas pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans la situation privilégiée où ils n'avaient plus à prendre parti. Donc, dans les camps de prisonniers, moi, personnellement, je n'ai rien trouvé où on puisse justifier des exécutions.
Le colonel Weinberger veut intervenir depuis longtemps, et puis Alain Russiot aussi.
Oui. Ah. En fait, ça valait
Éric
la peine
oui, tout à
avec
fait,
ce
oui.
que j'ai trouvé de pouvoir
Oui, je voudrais donner une autre précision. Monsieur Vidal-Naquet a dit oui, mais de l'autre côté, a-t-on torturé aussi d'abord, je voudrais venir sur une notion qui était d'ailleurs un slogan génial des années 48 à 50 des anti-Indochine en France, qui était la sale guerre. Eh bien, je suis désolé, toutes les guerres sont sales. Il n'y a pas de guerre propre, les guerres sont toujours sales.
Vous savez...
Des deux côtés. Donc, et il se trouve malheureusement qu'en Indochine, la guerre était plus sale du côté des Viet que de notre côté. Ceci dit, dans toutes les guerres, quelles qu'elles soient, il y a des excès. Il y a des abus, il y a des atrocités, c'est vrai. Mais elles sont occasionnelles, elles ne sont pas systématiques. Or, dans l'affaire Boutarel, nous, ce qu'on reproche, c'est qu'il y a eu systématisation du traitement inhumain. On reviendra là-dessus, parce que là, il y a la clé de des problèmes.
Mmh. Oui, Alain Russiot.
Oui, moi, je voudrais dire que j'étais un lecteur très attentif de la thèse du colonel Bonafou. Et très attentif, vraiment. J'y ai découvert un certain nombre de choses, et en particulier ce que le colonel appelle les brimades, les tortures. Et il y a effectivement des cas qui sont cités, et je le dis sans démagogie aucune, toute torture est condamnable, toute torture diminue l'être humain torturé, diminue l'être humain qui torture. Mais je suis obligé de constater, mon colonel, que vous citez un certain nombre de cas. Je n'ai pas fait de calcul, et ce serait tout à fait morbide, je crois, mais qui vous a porté sur quelques dizaines d'exemples, ce qui est de toute façon de trop. Je voudrais quand même dire, et je vous prie de m'excuser, je me retourne cette fois-ci vers mon deuxième colonel, celui qui est à ma gauche, je suis en total désaccord avec vous. Parce que j'ai bien étudié cette guerre, qui a été appelée sale guerre, non pas comme tout le monde le croit, par le PCF, mais d'abord par Hubert Boeuf-Méry, qui était éditorialiste du Monde.
Et directeur du Monde.
Donc, cette guerre, il y a eu beaucoup d'exemples. Veut-on ressortir le reportage de René Dussart, envoyé spécial de François en 1945, qui dénonce déjà l'utilisation de la GIGN, de la torture à l'électricité? Veut-on ressortir l'article de l'envoyé spécial de l'Aube, organe du MRP, qui s'appelait Jacques Chegaray, qui n'a pas pu publier dans l'Aube, et c'est donc Témoignage chrétien qui l'a... Je crois que il y a énormément de choses. Je ne souhaite pas que ces choses-là ressortent, parce que ça n'apportera plus grand-chose à l'histoire.
Mais en principe, elles ne peuvent plus, puisqu'il y a amnistie depuis 66.
Il y a amnistie pour tout le monde.
On arrive peut-être.
Alors,
oui.
Je voudrais dire, ça n'apporterait plus grand-chose à l'histoire, mais je dis également que lorsque je dis cela, je ne suis en aucun cas antimilitariste. Je pense qu'il y a eu des militaires, et la majeure partie des militaires du corps expéditionnaire ont sans doute mené un combat qui était, à mon avis, un mauvais combat, politiquement parlant, mais que ceux-là n'ont pas participé. Il y a eu un certain nombre de gens qui ont participé, et c'est ceux-là qui ont déshonoré l'armée française.
Jacques-René
Doyon, toujours pour apporter une information très rapide au débat, je signalerai que au Tonkin, à Langson, il y a un capitaine, le capitaine Müller, je peux citer son nom parce qu'il est mort, d'origine suisse, de formation protestante, donc une formation très morale, qui, pour des raisons que j'ignore complètement, a déserté. Et passé au Viet Minh. De même, dans le sud, il y aurait un commandant. Mais alors là, c'est sous toute réserve de formation plutôt chrétienne de gauche, qui également aurait été un transfuge. Bon, ce sont des éléments que je veux donner au débat.
Tout à fait. Et revenons maintenant à ces camps Viet Minh, justement. En dehors des mauvais traitements et qui explique pour la plupart, vous l'avez dit, la mortalité, et puis de la maladie, de la malnutrition, il y a aussi, on l'a évoqué, ce qu'on appelait les lavages de cerveau, je crois, ou la rééducation. Et c'est de cela, évidemment, que l'on accuse Georges Boudarel, puisqu'il a été le responsable dans le camp 113. La rééducation, en deux mots, nous avons évoqué ça dans l'émission l'année dernière, mais la rééducation ou le lavage des cerveaux, en quoi ça consistait? Parce que pour
70% des gens mouraient en croyant être libérés. Par déception, il mourait. Ça, l'endoctrinement a fait des dégâts incommensurables. J'ai été moi-même dans le camp de rééducation où j'étais enchaîné au départ à mon moulin. J'avais des chaînes aux pieds et on m'avait mis un jeune commissaire politique qui, me, 4 heures par jour, me essayait de m'endoctriner. Alors, j'ai un esprit de détachement assez particulier. Je venais de payer ma voiture, j'avais fini mon séjour, moi. Et je savais que cette voiture, je n'en profiterai jamais. Eh bien, j'en ai profité pendant qu'il me parlait, car je me suis vu dans ma voiture, je faisais démarrer ma voiture, etc. Et j'ai réussi à m'en sortir comme ça. Mais c'était
forme d'évasion mentale. Mais c'était cet endoctrinement portait sur quoi? On l'avait un peu évoqué la semaine dernière.
Ah ben, ça consistait en quoi? Il me disait par exemple que Torres était le premier résistant de France. J'essayais de lui dire que c'était De Gaulle. On n'était pas d'accord. Alors, il avait des tas de choses comme ça où il prêchait le faux pour rien du tout. Et il me disait, vous savez, quand vous serez parti au Vietnam, on aura tous une 4 chevaux, un frigidaire, une maison à 2 étages. Bon, ils l'ont toujours pas remarqué. Mais c'était ça, c'était bête. Mais pour certains caractères, avec la faim et la fatigue, ça arrivait à prendre.
Votre cas, colonel Weinberger, puisque vous avez été prisonnier vous-même aussi, dans le camp numéro 1.
Non, moi, c'est pas dans le camp numéro 1. Moi, c'était... je suis arrivé au camp numéro 1 uniquement après l'armistice. J'étais, moi, dans un camp de représailles, un camp qui s'appelait un tribunal militaire. On était dans des cellules, enchaînés d'abord, puis ensuite, on n'était plus enchaînés. Parce que moi, j'avais été officier de renseignement dans mon bataillon. Et pour eux, les officiers de renseignement, les officiers de transmission, les pilotes, même d'hélicoptères, les aumôniers, c'était des criminels de guerre. Et donc, j'étais dans un camp comme celui-là. Mais moi, je peux pas donner cet exemple-là. Nous avons eu de la chance parce que il y a eu parmi nous un garçon très astucieux, le capitaine Guy Minot, qui malheureusement ensuite a été tué en Indochine, qui lui un jour a trouvé l'idée de dire moi je veux du papier et un crayon pour écrire au président Ho Chi Minh parce que lui il est bon et vous chef de camp vous êtes mauvais. À partir de ce moment-là, c'était terminé. On a commencé à avoir un tout petit peu de disons, un traitement un petit peu plus correct.
Oui, Jacques-René Doyon.
J'ai lu ces jours-ci dans la thèse de Bernard Fall, qui est une thèse qui est écrite sur le Viet Minh, qui est très célèbre, qu'il y avait des camps également de rééducation de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du corps expéditionnaire.
Ah non, ça, c'est... non, jamais. Non,
si je l'ai lu, dans, ou alors du côté vietnamien...
Complet, il n'y a jamais eu des camps de rééducation. Non, je ne sais pas pourquoi on aurait rééduqué des gens... Qu'il n'était pas éduqué.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Fall dans sa thèse sur le Viet Minh. Je l'ai lu avec surprise.
Je l'ai lu avec surprise. C'est pas une thèse, d'ailleurs, c'est un bouquin qu'il a fait. C'est pas une thèse.
Le livre et sa thèse.
C'est un livre, c'est pas une thèse.
Non, le livre et sa thèse de Fondation des sciences politiques. Enfin, ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'au Vietnam Sud, moi, j'ai visité dans la guerre américaine des camps d'éducation faits par les ACIA, les Américains, sur les Vietnamiens déserteurs.
Pierre Vidal-Naquet, vous voulez intervenir.
Quand il y a eu ce qu'on a appelé, pendant la guerre d'Algérie, l'action psychologique, qui consistait à convaincre un certain nombre d'Algériens qu'il fallait choisir le côté de la France, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas commencé au Vietnam.
Non, mais attention, mais là, ils étaient bien nourris. Hein.
On n'a pas commencé, c'est là où vous faites l'erreur et vous enterrez le sujet
Ils ont été bien nourris. Non, Est-ce qu'à Poulo Condor, on a été bien nourris?
Non, mais là, il n'y a pas de Poulo Condor. Les camps, je les connais, et j'aimerais bien qu'on me le dise, qu'on me laisse parler de ces camps de rééducation où j'ai été. Il y a eu 22 camps de rééducation qui étaient destinés aux civils vietnamiens. Au civil. Et si j'y étais, avec 36 de mes camarades, et nous sommes rentrés que 6 survivants, eh bien parce que nous étions évadés, etc., on y mettait les fortes têtes. Mais dans ce camp, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'était des camps qui étaient comme des forts Apaches, avec 4 miradors, un mirador central avait la mitrailleuse à l'intérieur du camp, et dans ce camp, il y avait 380 personnes, mais il y avait des femmes, et il y avait des enfants. Et moi, j'ai vu un enfant, ils avaient leur condamnation peint à la peinture blanche sur le dos et sur la cuisse droite. Eh bien, j'ai vu un enfant de 10 ans qui était condamné à 10 ans de bagne. Il faut que le dire, ça. Il faut que les gens le sachent. Ces camps de rééducation existent toujours, mais ils étaient, et nous, Français, on était là-dedans. Et il y avait un mort par jour. C'est-à-dire que sur 361 jours, c'était la totalité du camp qui passait au cimetière. Et on n'était absolument pas nourris, c'était des camps d'extermination. Ils n'avaient pas besoin de fours crématoires, les Viet Minh. Ils avaient autre chose, ils avaient la patience.
Alors vous avez, Robert Bonafous, vous venez de prononcer un mot évidemment qui peut expliquer aujourd'hui l'espèce d'amalgame que l'on fait entre les camps Viet Minh et les camps de concentration, qui peut expliquer aujourd'hui donc une procédure qui a été lancée par quelques membres du camp 113, procédure à laquelle je crois l'ANAPI s'est jointe, condamnation donc de Georges Boudarel pour crime contre l'humanité. L'avis du parquet qui vient d'être rendu indique qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Le juge d'instruction n'a pas encore, lui, rendu le sien. Mais est-ce qu'on peut, là je vous pose à tous la question, comparer ce qui a été fait dans les camps Viet Minh et l'action de Georges Boudarel, comme ça a été dit souvent, à celle qui se produisait, à ce qui se produisait dans les camps de concentration nazis, et comparer Georges Boudarel à Barbie?
Alors, ce que je peux dire très rapidement, puis on laisse la parole à mon camarade Van Berger, c'est que dans chaque camp, il avait un commissaire politique. Bon. Ce commissaire politique avait le droit de vie et de mort sur, il faut le connaître, sur les prisonniers. Suivant le commissaire politique, les camps étaient bien ou pas bien. Bon. Ça, c'est le caractère lui-même du commissaire politique qui faisait que le camp était bien ou pas bien, qu'il y avait des morts ou qu'il n'y avait pas beaucoup de morts. Voilà ce que je veux dire. Je ne parle pas de Boudarel, je l'ai dit. Je ne suis pas un justicier, mais je dis ce que, en tant qu'historien, ce que j'ai trouvé dans les archives. Dans chaque camp, il y avait un commissaire politique, et suivant son degré de méchanceté, le camp avait des morts ou n'en avait pas.
La condamnation pour vous, la condamnation ou l'accusation de crime contre l'humanité, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Robert Bonafous?
Je pense qu'il y a des commissaires politiques qui ont été plus acharnés que les autres, peut-être plus maladroits. Je ne parle pas de Boudarel, puisqu'il y avait... Moi, je parle des commissaires politiques.
Je pose une question
général,
sur lui, moi.
Que je connais bien, puisque je connais toute leur dialectique. Et j'ai lu, en prison, on me l'a fait lire pendant que j'étais au secret, j'ai lu toute la dialectique et leurs cours qu'ils avaient pris. Donc, je connais bien les commissaires politiques, je connais les instructions qu'ils avaient, et il y en a qui ont outrepassé ces directives.
Bien. Eric Van Berger, donc vous faites partie
là,
de ceux qui...
Effectivement, il faut, un petit peu dans le cœur du sujet.
Oui, mais de cœur, malheureusement, on est à la fin de l'émission. Oui. Et ça va toujours un peu trop vite. Oui,
effectivement, il y a bien des amalgames à éviter. Alors, moi, je suis donc également un ancien déporté, donc je pense que je sais de quoi je parle. Nous sommes deux survivants actuellement à avoir fait et la déportation et les camps Viet Minh. Alors, oui, il y a deux analogies très précises entre les camps Viet Minh, pas tous les camps, je vous dis tout de suite, mais la plupart, et en particulier le camp 113, les camps de concentration nazis. Attention, je dis les camps de concentration où étaient les déportés politiques, les résistants, les juifs valides, et je ne veux pas faire... il ne s'agit pas du tout de parler des camps d'extermination où on exterminait les juifs vieux, les enfants, etc.
Vous m'avez dit que vous avez, vous, pendant la guerre, été à Auschwitz, à Buchenwald et à Dachau.
Oui. Bon. Oui. Donc, si vous voulez, j'étais dans un camp de concentration.
Et d'extermination dans le cas d'Auschwitz.
Non, j'étais pas, si vous voulez, moi, l'extermination, si j'avais été dans un camp d'extermination, je ne serais pas là.
Non, mais je veux dire par là qu'Auschwitz, comme on disait, était un camp mixte.
Était à la fois un camp de concentration et d'extermination. Oui. Donc, c'était les deux. Mais moi, je parle des camps de concentration. Il y avait deux analogies. La première, c'était cet avilissement systématique de l'homme à l'état de bête. Je me suis senti aussi bien chez les nazis que chez les Viet, un sous-homme. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la dégradation voulue systématique physiquement, par une espèce de cycle infernal, peu de nourriture, beaucoup de travail, maladie, épuisement, mort.
Bien, Pierre Vidal-Naquet.
Oui, moi
je voudrais là-dessus, parce que vous êtes évidemment tout à fait hostile, vous, à cette analogie.
Non, mais moi je considère que si l'on veut parler de crimes contre l'humanité, alors il faut aller à la pêche, et je dois vous dire que la pêche sera fructueuse. Parce que si l'on parle de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire selon l'article 6C du statut de Nuremberg, l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, alors qu'est-ce que l'on fera du 17 octobre 1961, lorsque 200 Algériens ont été jetés à la Seine à Paris, ou des massacres de Sétif lorsque 10 ou 15 000 Algériens ont été exterminés après le 8 mai 1945, etc.
Non, je crois que vous confondez. Ce sont des crimes de guerre et pas des crimes contre l'humanité.
Je voudrais simplement citer la phrase de Jacques Dalloz qui fait autorité sur la guerre d'Indochine. Jacques Dalloz dit dans son livre qui fait autorité, simplement, c'est une phrase.
Jacques Dalloz, c'est un livre remarquable. Voilà. Au seuil, c'est le meilleur livre,
cité dans l'histoire. C'est une phrase que je verse au dossier. Il n'y a pas eu de la part du Viet Minh de volonté d'extermination. Son but n'était pas de liquider, mais de convertir.
Est-ce qu'il était allé à l'Indochine, Monsieur Gallo?
Je ne sais pas.
Bon, Dalloz,
on ne parle de l'Indochine, de la captivité, que quand on a été là en captivité et quand on a fait l'Indochine.
Ah là, écoutez, Robert Bonafous, vous avez fait un travail d'historien, mais enfin, si,
je